Aujourd'hui, la masterclass d'Hélène Cixous avec Caroline Brouet.
Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, Hélène Cixous.
Bonsoir.
J'avoue qu'il est assez difficile, parfois, certains auteurs sont plus difficiles que d'autres à présenter. C'est votre cas, non seulement parce que, et pas seulement d'ailleurs, parce que votre grand ami, le philosophe Jacques Derrida, considérait que vous étiez un olni, c'est-à-dire un objet littéraire non identifié, pas seulement parce que c'était le cas, mais aussi parce que vous avez une longue carrière et une très grande œuvre derrière vous, écrivaine, universitaire, dramaturge, auteur d'une œuvre aussi bien littéraire que théâtrale, des essais sur la littérature, sur la philosophie, sur la psychanalyse, sur les arts, aussi bien de la fiction, du prénom de Dieu, qui a été votre premier recueil de nouvelles en 1967, jusqu'à Défions l'augure, qui n'est pas encore sorti, mais qui va paraître en janvier prochain. Vous êtes l'auteur de près de 70 ouvrages, publiés chez de nombreux éditeurs, longtemps aux éditions des Femmes Antoinette Fouque, et puis depuis presque 20 ans, chez Galilée, où vous avez publié 34 livres, c'est-à-dire en moyenne, j'ai fait le calcul, 2 livres par an. Bon. Alors Hélène Cixous, vous êtes née le 5 juin 1937 à Oran, fille du docteur Georges Cixous, qui lui-même était né à Oran et qui est mort à Alger en 1948, quand vous n'aviez que 10 ans. Vous êtes fille également d'Ève Klein, qui elle était née en Allemagne, dans la ville d'Osnabrück, qui est présente dans votre œuvre, et on va bien sûr y revenir, et qui est décédée en 2013. Vous êtes agrégée d'anglais, vous êtes docteur d'État depuis 1968, votre thèse a porté sur James Joyce, elle a été éditée chez Grasset. En 1968, vous avez contribué à la création de l'Université expérimentale de Paris 8 Vincennes, où vous avez enseigné jusqu'en 2005. En 1974, vous avez institué le premier doctorat en études féminines. Et depuis 1983, vous tenez un séminaire au Collège international de philosophie. Par ailleurs, vous êtes docteur honoris causa de très nombreuses universités, je ne vais pas toutes les donner, elles sont vraiment très nombreuses, au Canada, en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Vous êtes également lauréate de nombreux prix, dont le Médicis pour votre premier roman, Dedans, en 1967, le prix La langue française, le prix Marguerite Duras et le prix Marguerite Yourcenar. On n'a qu'une heure ensemble. Et donc aujourd'hui, Hélène Cixous, on va essentiellement parler de votre œuvre de fiction et on gardera quand même pour la fin quelques questions sur le théâtre puisque vous êtes également auteur associé, je ne sais pas comment on le dit dans vos mots, au Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine depuis presque 40 ans. On va commencer avec vous, si vous le voulez bien, Hélène Cixous, par la naissance de l'écriture puisque vous avez coutume de dire « Je ne sais pas vivre sans écrire ». Alors parlez-nous de cette naissance de l'écriture qui, si je ne m'abuse, coïncide avec une mort, celle de votre père, donc quand vous aviez 10 ans, 1948. C'est cette mort qui a déclenché l'écriture ?
Mon mythe personnel, c'est ça. Je pense que ça a une part de vérité. Mais c'est plutôt... Peut-être que mon père était en train de mourir avant sa mort. Il était, pour moi, il était l'Algérie, ma mère était l'Allemagne, et l'Algérie, c'était un pays qui était à l'agonie, quand j'étais petite. Mon expérience de très petite fille, qui est complètement présente pour moi, c'est-à-dire que dès que j'avais 3 ans, j'étais complètement à l'intérieur d'une scène de grande violence politique, c'est une expérience d'effroi devant les méchancetés humaines, les méchancetés, les innombrables espèces de cruauté, de mise à mort de l'autre, de mépris, d'interdit. Et je vivais dans un pays que certains d'entre vous connaissent certainement, l'Algérie, où on ne savait pas trop quel était le racisme le plus fort. C'était vraiment une sorte de concurrence des différents racismes pour être le pire. Et ma prise de conscience, ça a été ça. Quand j'ai commencé à comprendre, j'ai vu d'un côté l'extraordinaire bonheur et l'extraordinaire liberté qui existait dans ma petite famille, dans un tout petit espace, et où vivaient, comme dans un paradis, vivaient toutes les langues. C'était, voilà, c'était avant la perte des langues et du paradis. Et tout autour, quelque chose qui était hideux. Voilà. Et j'ai pensé, dans ma plus petite enfance, j'ai déjà pensé qu'il fallait trouver un autre monde. Alors je l'avais, puisque dans ma famille, on me proposait un autre monde qui était un monde joyeux, où on parlait effectivement beaucoup de langues, on s'amusait beaucoup. Et même si ma famille maternelle était... C'était éclipsé de l'Allemagne nazie. Le fait que la moitié de ma famille maternelle était en camp de concentration, ça ne changeait pas la luminosité qu'il y avait dans ma famille maternelle. Alors, si bien que, en fait, je pense que j'ai eu besoin, à partir de l'âge de 3 ans, j'ai eu besoin d'un refuge. Et au sens très fort du mot, je pense que ma façon de m'avancer, de me précipiter même vers la littérature, avant que ce soit l'écriture, enfin, donc vers les livres, c'était un instinct de fuite et de savoir où on pouvait trouver un asile, et surtout du point de vue moral. C'est-à-dire, je me disais que là, ce que je cherche, c'est la liberté et la beauté. Et ben là, ça existe. Ça n'existe pas dans ce monde-là, mais dans celui-là, qui était sur les étagères, enfin, et que je trouvais aussi dans les arbres. Lire, voilà. Donc j'ai pensé que, quand j'étais toute petite, je me suis dit, il faut lire, voilà. Lire, vivre. Ce sont des synonymes.
Il faut lire avant même d'écrire. Et oui. Donc votre vie d'écriture a continué ensuite, une fois qu'elle a commencé à s'accompagner de lectures. On retrouve un certain nombre, bien sûr, de grands auteurs dans votre œuvre. Vous dites que les livres hébergent les inoubliés et ils se nourrissent eux-mêmes des livres. Alors, on retrouve évidemment Homère, Shakespeare, Joyce, Montaigne, Kafka, Stendhal, Proust, qui reviennent d'un livre à un autre. Peut-être on pourrait s'arrêter sur l'un d'entre eux, parce qu'on n'aura pas le temps, malheureusement, de s'arrêter sur chacun d'entre eux. Mais vous dites, sans Shakespeare... je n'aurais jamais écrit Shakespeare.
Ah oui, c'est sûr. Mais je voudrais quand même dire qu'il n'y a absolument pas de discontinuité ou même de différence entre lire et écrire, parce que lire, c'est écrire. C'est le premier temps de l'écriture. Écrire, c'est lire. Écrire, c'est de toute façon lire justement le monde, c'est lire les signes. Donc c'est absolument indissociable. La seule chose, c'est que quand je pensais que j'allais lire, enfin que ma vie, c'était lire, je n'ai pas pensé pendant assez longtemps que ça me conduirait sur le papier et vers la publication. Ça, voilà. Mais Shakespeare, c'est un peu comme Montaigne. Pour moi, ce sont les deux. Enfin, je pourrais dire Shakespeare-Montaigne. D'ailleurs, ils se sont connus, si je peux dire, par traduction. Shakespeare a lu Montaigne en traduction. Et donc, il y a, justement, dans le livre qui va paraître, j'ai pris « Défiant l'augure », c'est une citation. Voilà. C'est une mini citation, c'est deux mots dans une proposition au tournant d'un état d'âme de Hamlet. Et pour moi, cet état d'âme, c'est le nôtre. Et c'est le moment, je vous le raconte parce que je trouve ça très beau, cette scène qui est entre-scène où Hamlet a accepté la proposition d'entrer dans un duel avec Laërte. Et nous savons, nous, le public, les amis de Hamlet, nous savons que ce duel va le conduire à sa mort. Et il parle avec Horatio, son ami, son autre, et il lui dit « Tu ne peux pas savoir comme j'ai mal au cœur, comme j'ai mal autour de la poitrine, je ne peux même pas respirer. » Alors Horatio lui dit « Mais alors tu ne vas pas aller faire ce duel. Écoute, on peut reculer, tu as le droit d'être malade. » Sur quoi Hamlet commence à citer longuement Montaigne et il dit en particulier ceci, « We defy augury », nous défions l'augure. Nous, pour vivre, et en tant que vivants, nous ne faisons jamais que défier l'augure, c'est-à-dire l'annonce de la mort. Et vivre, c'est défier l'augure. Voilà. Alors, ce qui est très beau, justement, dans la langue de Shakespeare, c'est ce « oui », c'est « nous hein, ». Nous défions l'augure, et qui est en fait... très indécidable. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce... Est-ce que c'est tous les hommes défient l'augure, ou bien est-ce que c'est une première personne du pluriel qui est partiellement poétique, rhétorique, où se rapporte à Horatio et Hamlet, etc. Nous n'en savons rien. Et puis c'est intraduisible. Et ça, c'est beau aussi. C'est qu'en fait, quand on passe d'une littérature à une autre, on est toujours dans l'intraduisible. Et quand on passe d'un livre à un autre, et qu'on essaye de le lire, on est en train de le traduire, et il est intraduisible. Et on ne peut pas, en français, nous défions l'augure, ça ne veut rien dire du tout en français, alors que, en fait, il y a un impératif qui se glisse là et qui dit, vous voulez vivre ? Défiez l'augure.
Est-ce que c'est cette langue des signes, le traduisible, l'intraduisible, mais aussi ce que les signes nous disent, à nous, Hélène Cixous, qui vous a fait aimer les arts ? Alors, les arts en particulier, l'art plastique, vous avez écrit, travaillé, collaboré, vous développez des amitiés aussi avec des artistes plasticiens, je pense notamment à Simon Antaille, à Pierre-Alain Chinsky, et puis plus récemment, mais l'amitié est très forte, et les livres s'en ressentent, avec Adèle Abdessemed. En quoi nourrissent-ils votre travail d'écriture, ces signes-là, qui sont des signes différents des mots ?
Vous savez, je pense que quand on écrit, on utilise l'écriture principale, enfin quand on écrit des livres, si je peux dire, enfin des textes, voilà. Quand on produit du texte, quand on tisse, on est dans une très grande proximité, une sorte d'analogie et avec les arts voisins, avec les prochains. Voilà, ce sont nos prochains. Moi, j'ai toujours senti que quand j'écris, mon travail qui est manuel, qui est très physique, chaque fois je me dis je suis en train de peindre ma page. Voilà, je peins. D'ailleurs, j'ai des pinceaux sur mon bureau. J'ai Alechinsky a 75 pinceaux qui sont comme ça, très très bien rangés, très propres. C'est bon. Chez moi, les pinceaux, c'est pas propre. C'est un désordre généralisé, mais c'est ça. C'est certainement 75. Instruments à écrire de toute espèce, et ça fait partie de l'écriture. C'est-à-dire que pour saisir quelque chose qui est tellement délicat, qui peut être évanescent, qui peut nous échapper, il faut procéder à la fois avec des instruments, de véritables outils. Il faut de la toile de papier. J'ai besoin d'une très grande quantité de différentes espèces de papier, de différentes dimensions. Il faut les pinceaux, c'est-à-dire les plumes, les crayons, les feutres, enfin une quantité de prolongation du nerf écrivant.
Des couleurs aussi, ou c'est que du noir et blanc ?
Les couleurs, au niveau de mes pinceaux écrivants, non, je pratique quand même le noir, mais je crois aussi que c'est pour des questions. Mais ça dépend aussi de l'épaisseur, c'est-à-dire je peux écrire extrêmement fin. Et au contraire, très, très large, je peux écrire à toute allure. Et puis, je devrais dire, d'ailleurs, ce n'est pas tellement les couleurs, mais ce sont les graphies, parce que sur une seule page, je vais avoir 10 graphies différentes.
En fonction de quoi ?
En fonction de l'affect qui passe. C'est-à-dire que je suis en train de poursuivre quelque chose, alors je prends un cheval, ou bien, au contraire, je pense qu'il vaut mieux ramper. Je fourmille, ou je me pose très légèrement comme une sauterelle, enfin, voilà. Et donc, le volume, la dimension, le poids de chaque mot est modifié à tout instant. Alors, les peintres, c'est exactement ce qu'ils font. Si vous regardez un peintre ou un artiste visuel courir derrière l'œuvre qui est en train de se promettre sur la toile, c'est exactement la même chose. Et puis on va et vient comme ça.
Vous parlez de cheval, de sauterelle, de fourmillement. Il se trouve que vous aimez les animaux. Vous en avez. En particulier, vous avez deux chats. Vous aimez les oiseaux aussi. Est-ce qu'ils font partie de vos sources d'inspiration ?
Ah oui. Mais là, c'est plutôt, je devrais dire que ce sont mes maîtres. Est-ce que c'est Socrate réincarné ? En tout cas, ce sont les sages. De mes chattes, que j'appelle chats aussi, puisque bon, on ne va pas quand même différencier sans cesse la sexualité, je suis en apprentissage, tout le temps, je les observe tous les jours, hein.
Les sons aussi, Hélène Cixous, est-ce que vous nourrissez de sons au sens large, hein, aussi de la musique, mais...
Alors les sons, parlons justement des sons, c'est une excellente question, parce que justement, puisque vous me dites au sens large, je pense que les sons qui sont pour moi maintenant, parce que j'ai eu une période naguère, enfin autrefois, qui était musique en permanence, au point que d'ailleurs, j'avais l'impression de tricher, parce que je mettais la musique pour lui piquer son énergie. Et donc, j'étais portée par, en particulier par les voix, mais aussi par un certain nombre de d'œuvres musicales qui me bouleversaient et qui, au fond, allumaient en moi un certain feu. Et puis, petit à petit, je l'ai trouvée trop forte. Je me disais, elle écrit plus fort que moi. Donc, petit à petit, je l'ai laissée. Mais par contre, ce dont je me sers, dont j'ai besoin, et que je n'ai pas à Paris, c'est le vent. Mais j'ai une maison d'écriture dans le sud-ouest où il y a du vent. En fait, c'est ma maison de vent. Et alors là, je dois dire que c'est une aide magique, inouïe. C'est quand même, ce sont les voix les plus archaïques, elles viennent de toute éternité, en même temps elles ont une jeunesse extraordinaire, elles tapent, elles crient, bien sûr c'est musique, et c'est une musique, il faut dire aussi qu'il y a les oiseaux, hein, bon, donc, mais c'est ne pas pouvoir dissocier par exemple la pluie de son qui provient des arbres quand le vent en joue, d'une inverse, ça vous donne une idée merveilleuse de la métonymie.
Et c'est donc nourri de toutes ces voix, là aussi au sens large, nourri de tous ces signes que vous vous lancez dans l'écriture, une écriture qui est permanente, là aussi. Est-ce que le foyer est toujours allumé, Hélène Cixous?
Alors là, je dirais oui, pour être honnête. Mais ça veut pas, il faut pas s'y tromper. Je pense que je suis en état d'écriture permanent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux ne pas écrire posé sur du papier pendant des heures, pendant des jours.
Et... Vous nous rassurez.
Non, mais parce qu'en fait, la fonction écriture, elle est en activité permanente. Et puis tout d'un coup, elle me dit... Pfft, celui-là, là, hop, là, il y a quelque chose qui vient de se poser. Je suis en train de faire n'importe quoi, et c'est trois mots que je pose. Parce qu'ils sont comme... Il n'y a jamais eu trois mots qui se sont conjoints de cette manière. Donc, je les note. Et c'est pas plus. Mais c'est... On ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le prévoir. Ça vient, voilà. Et je pense effectivement que, parce que parfois on me demande, donc même très souvent, des gens me demandent gentiment et de manière charmante, vous mettez combien de temps pour faire un livre? Voilà. Alors, je pourrais dire, d'une part, 60 jours, 59 jours, 59 jours, d'autre part, 59 ans. Le même, bien sûr. Je pense que quand on écrit, c'est une forme d'être, une forme d'être au monde.
Donc c'est à la fois un rythme intérieur, des affects qui vous traversent, une nécessité, peut-être même aussi le rythme de l'édition, puisque deux par an, 59 jours ou 59 ans, au final, ça commence à faire beaucoup. C'est un flux ou un flot. Est-ce que vous sauriez dire ce qui détermine ou ce qui dicte même l'écriture, quand ça passe comme ça et que comme vous êtes en activité permanente, il y a un moment où ça se pose sur le papier, est-ce que c'est tout ça à la fois ou est-ce que c'est l'affect qui prend le dessus, le rythme musical? Est-ce que vous arrivez à mettre un mot là-dessus?
Non, mais beaucoup, beaucoup. Derrida dit à un moment, en passant, une belle phrase, une phrase merveilleuse, de l'écriture. « Je posthume comme je respire. » Bon, moi, donc, c'est beau, hein? C'est-à-dire, je suis mort comme je suis vivant. Bon. Moi, j'écris comme je respire. Et encore une fois, ce n'est pas, je ne vis pas avec du papier, voilà. Même si, je suis toujours... approvisionné. C'est-à-dire, j'ai toujours des carnets, etc., tout le temps, même à la plage, où donc j'ai toujours quelque chose avec moi, même quand je ne pose mon carnet que quand je vais me baigner, sinon il y a du carnet autour de moi. Mais c'est uniquement parce qu'au fond, ce sont des activités comme la cueillette, comme la chasse, comme la pêche. Voilà.
Vous écrivez, Hélène Cixous, comme vous respirez, vous écrivez aussi comme vous dormez, puisqu'il se trouve que vous écrivez aussi la nuit, avec vos rêves.
Je rêve, oui. Ça, c'est peut-être c'est un secret sans secret, parce que c'est chez les rêves où... en rêve, dans cet univers inouï que... C'est le trésor, c'est le monde du trésor, mais c'est un trésor qui m'est accordé qui m'est prêté plutôt, qui ne m'est pas donné, parce qu'il est très incertain. C'est de là que, ou c'est là, ce sont les grottes, ce sont les mines, et c'est l'art suprême. Je rêve. Et je retiens mes rêves, je les saisis, je les capture, je les note, et afin qu'ils ne s'échappent pas, parce que c'est le propre des rêves que de s'en aller, je les retiens par les franges comme ça, c'est-à-dire que pendant la nuit, je note très rapidement quelques germes de rêves. Et comme j'écris en pleine nuit, et de manière évidemment... Alors ça donne des choses extrêmement bizarres. C'est des œuvres, d'une certaine manière. C'est pas particulièrement joli. C'est quasiment illisible, mais j'arrive à reconstituer quand même le matin. Ce qui m'embête, c'est que parfois, j'écris un rêve sur un autre parce que j'ai pas retourné mon papier. Et alors là, ça fait un drôle de palimpseste, mais bon... Ben voilà. Et à l'aube, entre la nuit et le jour, je rédige très vite. Et là, justement, les chats se transforment en sphinx solidaires, c'est-à-dire restent... Je leur dis attention, j'écris. Hein. Et elles m'accordent la demi-heure qu'il me faut pour rédiger le plus rapidement possible un rêve qui est encore palpitant, qui n'est pas encore devenu... spectre, vapeur, et voilà. Et là, quand je jette un coup d'œil sur un rêve, je me dis toujours que je suis humblement dépassée par la puissance incommensurable d'un rêve qui s'est dicté à moi, mais que je ne maîtrise pas du tout, du tout, du tout. Et j'avais, quand j'ai commencé à écrire, enfin quand j'ai commencé à griffouiller, à dérailler, j'étais voleuse. Ça me gênait beaucoup. Mais quand même, je me disais parfois, pourquoi est-ce que je me fatigue à transformer ma pensée en poème, parce que c'est ça, écrire. Hein. Voilà, c'est... Voilà. Alors que c'est tout fait. Ça a été fait, c'est fait, et mille fois mieux que ce que je peux faire moi. Alors, en catimini, je lui volais un rêve, que je glissais comme ça dans un texte, puis après j'effaçais les traces du vol. Et voilà. Et pendant les premières années de mes publications, où je n'ai jamais dit que j'étais écrivain, d'ailleurs encore aujourd'hui, j'aime pas dire ça parce que c'est faux.
Ça veut dire quoi, c'est faux?
Parce que c'est pas, pour moi, ça peut pas se cristalliser en quelque chose qui est reconnaissable comme profession ou occupation ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est un acte. Donc tout ce que je peux dire, c'est que j'écris. Je suis en train d'écrire, voilà. Et alors, j'avais un sentiment d'imposture colossal. Au point que les premiers livres que j'ai écrits, je me suis dit, est-ce que je peux les signer? On me disait, il faut signer. Mais je n'osais pas dire que c'était quand même... qu'il y avait eu rapine. Voilà. Je me disais, mais quelle imposture quand même, il faudrait que je signe rêve. Voilà. Et vous savez, il y a des livres quand même, il y a beaucoup de livres que j'ai écrits en collaboration, comme ça, avec mes voix, avec... alors bien sûr que la collaboration que j'ai en permanence avec les autres œuvres, ça, c'est quelque chose qui est indescriptible. Je suis... Moi, mon corps, il est complètement habité, hanté, chanté par une quantité d'œuvres que je connais bien et qui viennent comme ça à mon secours. Je pense une chose et à ce moment-là, il y a Shakespeare qui me dit « Oui, mais ça, je l'ai déjà dit. Et tu te rappelles ce que je t'avais dit ?» Bon, je te l'ai dit autrement. Alors, je me retourne et il y a Montaigne qui vient tout de suite. Et mille autres. Il n'y en a pas que deux et, parce que j'arrête pas de lire. Hein.
Est-ce que parfois, Hélène Cixous, vous rêvez d'abord un livre et puis la réalité vient plaquer quelque chose de différent sur le rêve ou quelque chose qui ressemblait à ce rêve. Je pense notamment à Gare d'Osnabrück à Jérusalem, où vous jouez parfois sur la confusion entre ce rêve qu'est le livre et qu'est l'écriture de ce livre et la réalité d'un voyage que vous avez pu faire. Puis même à la fin de Gare d'Osnabrück à Jérusalem, vous voyez le livre suivant, qui est le livre que vous allez écrire sur Jérusalem en faisant le voyage, à moins que vous ne l'ayez pas fait, puisque vous l'avez peut-être fait en rêve. On ne sait pas, d'ailleurs. Finalement, pour nous, lecteurs, peu importe, mais c'est important sans doute pour vous, sachant que Correspondance avec le mur, donc ce livre qui vient après Gare d'Osnabrück à Jérusalem, ce livre-là a été d'abord vu avant d'être écrit, de fait. Donc, quelle est la part... Est-ce que le livre écrit correspond toujours au livre rêvé ?
Non. Mais par contre, alors je vais quand même séparer les choses. Il m'est arrivé de voir un livre en rêve. J'étais drôlement soulagée. Je me disais, bon... Parce que c'est quand même un effort d'écrire un livre. C'est-à-dire que pendant les 59 jours pendant lesquels j'écris à marche forcée, c'est-à-dire absolument sans m'arrêter, sauf pour dormir, c'est-à-dire pour continuer à écrire. C'est fatigant, ça exige... Mais c'est fatigant, c'est enivrant, mais ça épuise quand même toutes les ressources. Hein. Bon. Alors, quand il m'arrive de voir un livre en rêve, j'éprouve un sentiment de béatitude. Et je me réveille, et après, il faut que je l'écrive quand même.
Et puis parfois, vous poursuivez un livre, comme on peut poursuivre un rêve. Vous écrivez dans la première page du corollaire d'un vœu. Avec les livres, on ne sait jamais. On pense à un livre auquel on adresse toutes ses sollicitations passionnées depuis des mois et parfois des années. Et la dernière minute, comme le jour d'un mariage chez Dostoïevski, le livre fuit. On en épouse un autre dans l'heure. On se demande si ces volte-face sont là pour égarer nos préférences secrètes ou pour les révéler.
Ah oui, mais ça, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, on me demande « Et alors, tu as une idée est-ce que tu sais ce que tu vas écrire ?» Mais j'ai des quantités d'idées. J'ai un cahier qui me suit, un cahier parmi les autres cahiers. Il y a un cahier où je mets plein comme ça de mini-livres, de micro-livres comme ça, de germes de livres, et j'écris « Ah, c'est peut-être le livre de cet été ». Je regarde, il me bat tout à fait. Donc quand j'arrive à ma maison d'écriture, où m'attend le livre que je ne connais pas, je regarde tout ça, tous ces livres que je n'ai pas écrits, mais qui voilà, et je tourne la page, je fais comme Kafka, là, vous savez, et j'attends. Parce que je sais, ça c'est mon seul savoir, c'est que je ne sais pas quel livre va venir vers moi, et je sais qu'il y a un livre qui va venir vers moi. C'est tout ce que je sais. Voilà. Après, je me fie à. Alors, à, je ne sais pas, à la vie, à la mort, à la littérature, au désespoir, à la nécessité de continuer, au vent, à l'océan, à mes innombrables mémoires, à des archives. Par exemple, cette nuit, j'étais dans les archives. Je me suis dit, oh là là, j'en sortais plus. Mais c'était des archives très particulières. C'était des nids comme ça, souterrains, etc. Puis à la fin, je me suis dit, bon, ça, c'est la Bibliothèque nationale qui me fait un coup. Bon. Et puis, je suis patiente. Et puis, je suis magique. Enfin, je crois à la magie. Voilà. Alors, voilà, j'attends. Et jusqu'à présent, j'ai du bois, là. C'est du bois, ça, j'espère. Et là, j'ai du bois. Jusqu'à présent, il y a toujours eu un envoyé. C'est-à-dire que... Alors, bien sûr que je me dis, il arrive, je ne le connais pas. Il me fait signe comme ça. Alors là, hop, je commence à courir derrière, parce qu'il court à toute... Alors, le problème, c'est que le livre va extrêmement vite. Extrêmement vite. Mais moi aussi, je suis très rapide. Mais moins que lui. Donc, il a toujours quelques longueurs d'avance, si bien qu'il m'arrive d'écrire de manière tout à fait comme ça, en abrégé, à toute allure, vite, vite, vite. Bon, et puis, il s'en va, je ne sais où. Enfin, il s'en va. Quelques moments s'en vont. Je profite comme ça de son voyage pour développer un tout petit peu. Et c'est ainsi qu'il me mène. Et il me mène dans, alors avec tous les moyens de transport, absolument tous, au bout du monde, en apocalypse, de l'autre côté de la vie, et très souvent et surtout chez les morts. Et ça, pour moi, c'est un très très grand bonheur. Mais je ne suis pas la seule, parce que Homère était avant moi.
Dans vos très nombreuses publications, il y a des livres qui font 120 pages, il y a des livres qui en font 260. Bon, ça dépasse pas très souvent les 300 pages.
Je crois que je n'ai jamais écrit 300 pages.
Ouais, je crois si. Que non, je ne crois pas. Je crois que c'est 260. Bon, enfin, je ne vais pas tout compter à chaque fois. En tout cas, Hélène Sixou, est-ce que vous êtes plutôt du genre prolixe, concise? Est-ce que vous avez tendance, une fois que le livre est né, hein, une fois que le livre est venu à vous et que vous l'avez rattrapé et saisi, à élaguer? Ou est-ce que vous avez besoin de développer, de rajouter en permanence?
Ah non, je non. En fait, j'écris d'un trait. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'un trait? En fait, j'écris d'un trait qui est divisé en 50. J'écris d'abord sans, enfin, d'une traite comme justement si j'étais à cheval. Depuis, disons, 6 heures du matin jusqu'à 15 heures. Ça fait 9 heures sans interruption, pendant lesquelles j'ai l'impression que je n'ai pas arrêté d'écrire. Donc, en 9 heures, franchement, si je passais la grègue à ce moment-là, j'aurais quand même écrit une vingtaine de pages, minimum. Bon, je m'arrête, je me dis, tout ce que j'ai pu écrire, je regarde, et il y a 3 pages. Or, ces 3 pages, je n'ai pas arrêté de les écrire. Alors, ce que j'ai là, c'est la résultante. C'est une formidable, un déferlement... des fleuves, des cascades de phrases, d'écriture, etc., qui se précipitent les unes dans les autres, comme ça. Et moi, j'obéis, je suis le scribe. Puis, c'est tout, puis ça vient se poser, mais ça vient se poser de manière extrêmement condensée. Ce qui fait, en fait, que, effectivement, ça rejoint un petit peu la condensation poétique. Ça, c'est pas calculé du tout, hein. Ce sont des ordres que je reçois et que j'exécute. Et comme je vous le disais, c'est extrêmement physique, c'est-à-dire que je ne peux pas écrire si je ne suis pas en pleine forme. Et donc, je ne peux pas aller plus loin. Et il y a un certain moment où le livre commence à me dire exactement, vous savez, comme vous avez dû voir évidemment des oiseaux, des oisillons, ils mettent 3 semaines pour atteindre leurs ailes. Et on les voit comme ça, plume à plume, plume à plume. C'est merveilleux à voir. Puis à un certain moment où ils ont leurs ailes, qu'ils ne savent pas encore utiliser, puis à un moment, mais ils sont partis. Voilà. C'est exactement comme ça que fait le livre. Et quand il atteint justement son plumage, je me dis, mais ça y est, je regarde et je me dis, ah, c'est la dernière page. C'est inutile d'essayer de la doubler. Il est inutile que je me dise, et si j'en faisais une après? C'est irrecevable, c'est absolument impossible. Alors, quand je relis, il m'arrive d'alléger, mais en cours de route, j'ai déjà beaucoup allégé. En relisant, il m'arrive de me dire qu'on peut faire l'économie, que cette page ou cette page, que je trouve belle par ailleurs, que je pourrais laisser, que je vais laisser à la BN. je me dis, non, ça, c'est là, tu t'es arrêté pour prendre une tasse de thé, c'est tout à fait inutile. Voilà. Et je l'enlève. Mais c'est de cet ordre-là.
D'aller au plus mince, au plus rapide, passe aussi parfois par faire de 2 mots un seul.
Ah oui.
C'est beau en plus, parce que vous pouvez écrire, par exemple, dans Les rêveries de la femme sauvage, la sœur témoin, sœur témoin en un seul mot, la sœur thème, t'apostrophe du verbe aimer, hein, en un seul mot, mais non moins. Je répète, la sœur témoin, la sœur t'aime, mais non moins. Mmh. Vous pouvez écrire dans un texte, alors là, paru dans l'Obs, en en novembre dernier sur l'écriture inclusive. On va laisser la sexualité de côté, mais je cite quand même cette phrase. « Plus il y a d'elles, au pluriel, plus on rit, écrit ça pluriel. » En fait, vous jouez avec la langue, Hélène Cixous.
Oui, je joue, mais vous savez, elle est faite pour ça, la langue. C'est d'ailleurs pour ça, finalement, que je m'y suis réfugiée. C'est-à-dire que là, il y a liberté. Le fait qu'on veuille détacher les mots les uns des autres, les dissocier complètement, les arnacher, les faire obéir à des règles qui sont toutes des règles qui ont été, au fur et à mesure que l'on a scolarisé la langue, des règles d'inhibition, il n'y a aucune raison. On peut faire avec la langue, on peut produire, multiplier, condenser infiniment. La langue française est par ailleurs extrêmement riche, mais on peut l'enrichir encore en la condensant. Mais ça, ce n'est pas un simple, c'est pas du tout arbitraire. Hein. C'est-à-dire que lorsque des mots me sont proposés par la langue, parce que je ne fais pas un travail comme ça, je fabrique pas, je fais pas de l'ébénisterie dans la langue, mais certains mots viennent et se précipitent ensemble pour aller plus vite vers un sens. Il n'y a aucune raison pour que je les rejette. Si on me fait une proposition, c'est comme un mathématique, quoi. Hein. On va vers la solution la plus rapide, la plus puissante.
Et la plus belle ?
C'est toujours, en fait, moi je pense que ça s'impose lorsque c'est harmonieux, toujours. Ce n'est pas discordant.
La langue, vous dites, la langue française est une langue riche. Vous utilisez un mot que je trouve très très joli. Vous dites, c'est une langue etcétérante.
Oui.
C'est une langue qui en appelle d'autres, non seulement dans l'invention des mots, mais aussi parce que c'est une écriture qui est la vôtre, qui est une écriture polyglotte. Alors, là, c'est aussi que vous avez grandi dans plusieurs langues, il y avait de l'allemand...
Mais le français est polyglotte. Le français est composé d'un nombre incroyable de langues. Bon, à part le fait que nous sommes tous des enfants de l'Indo-Européen, en tout cas à l'Occident, le français est composé et constellé... retissé, brodé, etc., d'un nombre incroyable. Nous parlons, en fait, toute la journée, nous parlons anglais, allemand, grec, arabe, persan, enfin, sans arrêt, quoi. Alors après, on se dit, non, il faut que le français soit pur, mais le français est totalement impur, Dieu soit loué. Et comme toutes les autres langues, hein. Enfin, le français est très hospitalier à un très, très grand nombre de bijoux qui viennent d'ailleurs. Et pourquoi ? Parce que... Et ça, je pense que tous les êtres qui ont la chance d'avoir une liberté en langue, lorsqu'ils parlent, ils sont à table avec les langues et ils picorent ça et là. Et puis à ce moment-là, telle langue va m'apporter telle proposition qui est plus rapide et plus charmante, plus savoureuse, plus précise, etc., que la langue dans laquelle je suis en train de me déplacer, toujours.
Oui, mais ces origines différentes et diverses de la langue française, soit on ne le sait plus, soit on ne l'a jamais su, soit on l'a oublié. On parle quand même français. Or, la particularité de votre langue ou de vos langues d'écriture, à vous, c'est que non seulement il y a cette langue française, etc., mais vous utilisez aussi l'allemand, l'anglais, puisque vous étiez professeur d'anglais pendant très très longtemps, et je rappelle, vous avez fait une thèse sur Joyce, vous avez enseigné la langue anglaise, il y a l'anglais, il y a l'allemand de votre enfance, et tout cela se retrouve au milieu du français avec des phrases allemandes ou des mots anglais, et tout ça se mélange.
Oui, d'abord parce que effectivement, c'est je dirais un peu mes langues qui me servent de langue, mais je pense aussi que d'abord ça existe, cette liberté-là, elle existe, elle peut se recommander de traditions très très nobles. Comme on le sait, Joyce a écrit en une seule langue contenant faite de 18 langues, qui est Finnegan's Wake. Mais moi j'écris quand même, je crois que tout ce que j'écris est parfaitement compréhensible. Maintenant, je pense que nous en sommes arrivés à une époque qui est, je le crois, moins censurante, et où, et je l'espère, nous sommes de plus en plus européens, de plus en plus... je veux croire que nous sommes de plus en plus hospitaliers et que donc personne ne va se fâcher si, de même qu'en France, on devrait entendre de plus en plus de langues étrangères qui se dirigent vers le français, qui vont faire amis et qui vont muter, qui vont colorer. De même, quand j'écris, je ne vois pas pourquoi de simples phrases qui viennent comme ça avec leur chant en allemand ou dans une autre langue ne rentreraient pas dans le texte, ce qui n'est pas une façon de dire au lecteur « vous devez comprendre l'allemand » parce que, naturellement, elle est toujours en traduction, elle entre en allemand et dans la phrase, elle est en train de se dissoudre et de passer en français. Et je peux vous assurer qu'elle est toujours là. C'est-à-dire, il y a toujours la traduction quelque part. Elle est juste à côté, en train de se lever.
Ça donne des anecdotes très belles, puisque vous avez des traces absolument partout de ce que vous appelez votre enfance à langue. Au pluriel, par exemple, cette très belle anecdote dans Voile que vous avez écrit avec Jacques Derrida, à propos de l'opération des yeux que vous avez subie pour corriger votre myopie. Et vous racontez que quand vous avez annoncé à votre mère que vous alliez opérer votre myopie, Ève, donc votre mère, a rétorqué « Was ? Qui est mamie Opie ?» Cette fois en deux mots. Mmh. Mamie, M-I-E, Opie. Mmh. Et vous êtes rendu compte que toute votre vie, vous-même vous aviez dit « mamie Opie » et que c'était comme si vous alliez perdre votre moi, une part de votre moi étrangère. C'est très joli, cette histoire.
J'ai hérité de ma mère un mot qu'elle disait avec son accent. Elle parlait admirablement français, mais elle avait un accent que je n'entendais pas, mais qui me donnait justement incroyablement de moments de jubilation. Alors, à partir de 90 ans, elle m'a dit « Je crois que maintenant j'ai atteint la vie et yes. » Voilà. Et c'était sa façon de dire, voilà, la vie et yes. Et je me suis dit, mais c'est vrai, je n'avais jamais pensé que la vieillesse, c'était la vie et yes. La vie, oui. Voilà. En fait, je pense que nos oreilles aussi, je sais qu'on a dans les petites classes, enfin j'espère que non, j'espère qu'on va tout changer, mais on a tendance au contraire à homogénéiser, à régler, etc. Mais finalement... Quand on atteint un moment d'indépendance, il faut pouvoir justement recevoir tous les bienfaits de ces innombrables molécules de linguistique, musicales. Voilà. J'ai envie de vous lire une phrase merveilleuse que j'ai piquée à la nuit des rois, Twelfth Night. Pardon, hein, c'est de l'anglais. Mais c'est tellement beau. Alors, je suis sûre que beaucoup d'entre vous, quand même, connaissent l'anglais. Et ce matin, en me promenant, je me suis dit, de toute façon, Je veux dire ce que je dis toujours, que j'emprunte à La Nuit des Rois, et qui est une phrase de Shakespeare où il dit « Ourselves, we do not owe », c'est-à-dire « nous-mêmes, nous ne possédons pas nous-mêmes ». Voilà. Nous-mêmes, ça c'est la clé de l'écriture. Hein. Nous ne nous possédons pas nous-mêmes. D'ailleurs, c'est un grand pratiquant du nous-mêmes. Voilà. Shakespeare, un de ses pronoms personnels les plus fréquents, c'est « ourselves ». Voilà, c'est-à-dire nous-mêmes, l'humanité. Mais ce n'est pas celle-là qui m'a retenue, c'est celle qui vient juste avant et qui dit cette chose incroyable, « I know not what ». « I do, I know not what ». Ça chante tellement, voilà. Et alors, je l'ai même en lisant, je me suis dit, mais ça veut dire quoi ? C'est une chanson, « I do, I know not what ». Ça, c'est vrai, hein, on devrait la faire en rap ou bien... non. Et c'est... I know, je sais, not, pas, what. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Toujours. C'est ce que nous sommes en train de faire.
Alors, Hélène Cixous, bon, l'inconscient, les rêves et toutes ces voix que vous entendez, hein, et sont pour beaucoup des voix, vous le disiez tout à l'heure, des voix de personnes fantômes qui vous habitent depuis très longtemps, qui vous ont habité. Et pendant très longtemps, depuis une vingtaine d'années, disons, vous vous êtes mise à écrire sur une personne qui vous a accompagnée, qui était bien vivante, elle, qui était donc Ève, votre mère. Mm-hmm. Et puis Ève est morte en 2013. Mais vous avez écrit avec ce qu'elle était, ce qu'elle disait. En même temps, vous vous êtes lancé dans une langue particulière qui est la langue au pays de la mémoire familiale. Sur les traces de cette histoire entre plusieurs pays, entre plusieurs langues, Est-ce que ça veut dire pour vous que c'est comme si vous aviez opéré un tournant dans votre écriture, le moment où vous vous êtes mise à écrire sur Ève, sur votre mère, qui continue d'ailleurs de vous habiter, bien sûr?
Le tournant a été pris il y a très longtemps, en fait. Je crois que c'était en 94, si je ne me trompe, ou peut-être 91. Non, c'est en 94. C'est le moment où je me suis aperçue que, quand on écrit en invitant des personnes qui nous sont chères ou qu'on déteste. Mais enfin, moi, il n'y en a pas chez moi. Il n'y a que des gens qui me sont chers. Tout de même, on ne peut pas ne pas éprouver un sentiment de responsabilité et même de culpabilité. Hein. Je te prends, je te mets dans mon livre, je te mange. On est assez... on est un peu anthropophage, on est... Bon. J'avais... à peu près, sans l'avoir décidé, mais en le pratiquant, je m'étais aperçue que, à travers mes textes, les personnes qui entraient dans mes textes et qui m'aidaient, qui m'apportaient toute leur vie, qui me faisaient des confidences, j'allais dans leur lit, je les regardais faire l'amour, ou bien hurler, etc., enfin bon, pisser, tout ce que vous voudrez, eh bien, c'était toujours quand même les gens dont je pouvais disposer parce qu'ils étaient morts. C'est-à-dire que je me rendais bien compte que je pouvais utiliser mon père, qu'il était le corps, la chair, l'esprit, la respiration, la lumière de mes livres. Et à un certain moment, je me suis dit quand même, finalement, j'avais déjà écrit beaucoup. Et je me suis retournée et je me suis dit, toute mon œuvre est à mon père. À qui je dois l'écriture, en tout cas l'embrayage, le démarrage. Et... puis je pensais à ma mère, je me suis dit, je vais finir par avoir produit quelque chose de tout à fait étrange, c'est une sorte d'immense tapisserie en l'honneur de mon père, et ma mère derrière le tapis avec rien du tout alors que je lui dois mille vies, et que de rire. Et puis je me suis dit, je ne peux pas la... Je ne vois pas comment, je ne peux pas la prendre. Voilà. Et au moment où je me suis aperçue que c'était impossible, et chaque fois que quelque chose m'est impossible, et chaque fois qu'il y a un grand drapeau rouge comme ça qui dit non, je me dis alors il faut y aller. Voilà. Ça, c'est le signe. Ça, c'est évidemment le grand défi de l'écriture, c'est qu'il faut absolument comprendre qu'on doit tout faire pour écrire ce qu'on ne peut pas écrire. C'est même la seule chose qu'il faut faire. C'est écrire ce qu'on ne peut pas écrire. Et je me suis attaquée à ma mère. J'ai commencé à la grignoter, et à la transformer. À la transformer en livre. Et ça a été mon premier Osnabrück.
99.
À ce moment-là, j'ai poussé ma mère en avant et je l'ai copiée, complètement. Je l'ai copiée, je lui ai dit, avance. Je copiais ses pas, ses mots, ses inventions fabuleuses, son corps, sa peau. Finalement, j'ai fini avec sa peau parce qu'elle perdait sa peau. Et je me rendais compte que c'était un geste d'une grande violence, d'un grand amour, d'une grande violence, et que c'était aussi une façon de l'imprimer, de la transformer en avenir. Parce qu'évidemment, j'y croyais à ça. Voilà. Et ce qui restait... impossible, c'était ce que j'avais en commun, ou du moins ce que je voulais avoir en commun avec ma mère, et qui était son lieu natal, son Allemagne, sa ville de famille, qui était une ville du Hanovre, qui s'appelle Osnabrück. Et pendant, je ne sais pas, enfin, 40 ou 50 ans, j'attendais d'aller à Osnabrück avec ma mère. Osnabrück, que ma famille avait, soit ma famille avait été déportée, une partie avait été déportée, et quelques-uns avaient réussi à quitter l'Osnabrück nazi à temps, dont ma grand-mère maternelle, qui est partie en novembre 1938, à une époque où même Freud avait du mal à partir. Et donc, j'avais envie, je désirais reprendre ma mère à la racine. Et à l'enfance, à une enfance qu'elle m'avait racontée mille fois. Et voilà, alors je peux dire que d'une certaine manière, j'ai vécu le mode de la promesse, avec la ville d'Osnabrück. C'est-à-dire, chaque année, je me dis, l'an prochain, à Osnabrück. Bon. Alors, je disais à ma mère, l'an prochain, à Osnabrück. Oui, disait ma mère, oui, d'accord.
Voilà. La transformer en avenir, dites-vous. Et ça, c'est quelque chose de très important, me semble-t-il, parce que tout à l'heure, vous disiez déjà que l'écriture, c'était aller et venir. Et c'est ce que vous écrivez dans une autobiographie allemande que vous avez publiée il y a quelques années avec Cécile Vachbrot.
En 2016, en fait, je crois.
Ah, oui. Quelques années. Oui. On est en 2018, presque. Écrire est un aller-venir. Un s'en aller-venir, loué soit le français. Un venir de partir, un aller avant de s'en venir. Un venir qui prend son élan depuis un partir. C'est un mouvement merveilleux de détachement de soi afin de s'approcher, ou de chercher à s'approcher, des moi qui souffrent en moi, poussent, jouissent, osent, fuient. Sitôt que le premier pas d'écriture est avancé, le pas de Rimbaud, le pas de Blanchot, le pas de Derrida ou de Céline, la rescousse est là. Peut-être cette phrase n'est-elle arrivée que sur le dos de ce mot délicieux de rescousse. Oui, l'écriture va, de pair, en impair, en compagnie, c'est une descendante, dont la mission est de reprendre l'ascension où elle a été laissée en attente par les prédécesseurs. Mmh. Hélène Cixous, on arrive au terme de cet entretien. Et j'avais promis qu'on parlerait quand même un petit peu de l'écriture théâtrale, de ces différents genres par lesquels vous êtes passé. On ne peut pas parler de tous les genres, on ne peut pas parler du genre essai. On s'est vraiment intéressé à la façon dont se fabriquent vos livres de fiction. Mais malgré tout, quand vous passez à l'écriture théâtrale, est-ce que vous la voyez comme une transition, comme une transformation, comme une rupture? Est-ce que les deux genres sont totalement séparés déjà?
Ah oui, pour moi, oui. Totalement. Surtout avec le Théâtre du Soleil, où j'ai été invitée à voyager pour l'éternité par Ariane, il y a bien longtemps. Et quand elle m'avait proposé, au début des années 80, de travailler pour le Théâtre du Soleil, je me suis dit qu'elle avait fait une erreur. Je me suis dit, mais moi, je ne peux pas écrire pour le Théâtre du Soleil. Je ne peux pas écrire. Je voyais pas du tout. Puis je me suis fiée quand même à son invitation. Je me suis dit, elle est quand même pas folle. Elle est même géniale. Donc si elle me dit, est-ce que tu veux écrire pour nous, c'est qu'elle pense que c'est faisable. Moi, pour moi, c'était impossible justement. Voilà un impossible.
Donc il faut y aller.
Donc il faut.
Drapeau rouge.
Exactement. Donc il faut y aller. C'est exactement ce que j'ai fait. Alors je peux vous dire que le premier saut, j'ai raté complètement. Le premier saut. Elle me dit, va en Asie. Je n'étais jamais allée en Asie. Et écris. Voilà, il y a un peuple, écris. Alors je reviens, comme ça, très fière de moi. Elle regarde, elle me dit, mais comment, mec, tu m'as fait un village? C'est minuscule, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on est grand. On est un royaume. Oh, je me dis, oh là là, c'est vrai, ça. Bon. Alors elle me dit, l'Inde. L'Inde? Oh, je suis partie, j'ai fait mes valises, je suis partie. L'Inde? Moi, je me suis vue comme ça, comme un microbe. Je regardais la carte de l'Inde. C'est impossible. Bon, voilà. C'était comme ça. Alors déjà, je suis allée d'impossible en impossible. De toutes les manières. C'était gigantesque. Moi, j'avais déjà écrit pour le théâtre. Mais c'était des pièces, à ma mesure, des chamber music. De la musique de chambre. On est quatre ou cinq. Là, ça va très bien. Bon. Alors j'avais écrit Portrait de Dora. Mais là, c'était pas 4 ou 5, il y avait 50 personnages. Je peux pas, 50 personnages, j'ai pas ça, moi. Alors il a fallu que j'invente un truc. Alors je me suis dit, bon, comment faire pour faire passer 50 personnages de là sur le plateau? Je peux pas faire plus que prendre 5 par 5. Alors je ramassais 5 personnages, j'allais sur le plateau, je revenais en arrière. Je faisais des scènes à 50 personnages, 5 par 5. Voilà. Je ne pouvais pas faire plus. Donc déjà, ça, tout a été comme ça, une sorte d'invention, de fabrication permanente, des moyens d'écrire, plus le fait que l'écriture de théâtre, c'est presque le contraire de l'écriture de fiction. C'est-à-dire qu'il y a des temporalités radicalement différentes. Au théâtre, c'est là. Voilà. Tu ne l'as pas compris? Alors c'est que j'ai raté mon coup. Ça doit être immédiatement lisible, audible, perceptible. Moi, c'est pas comme ça que j'écris, comme vous le savez. Et donc, j'attends du lecteur qui veut bien lire mes livres qu'il soit d'accord avec ma programmation dans le temps, c'est-à-dire il faut lire une fois, puis une deuxième fois, puis comme ça, puis une troisième fois, comme tous les écrivains, on peut dire. Hein. Et alors au théâtre, c'est pas possible. Ça doit communiquer instantanément. Hein. Le signal, il est d'une impatience totale. Il faut inventer des personnages. Moi, j'ai pas de personnages dans mes livres. Je n'ai que des gens que je connais, avec lesquels j'ai vécu toute ma vie. J'ai mis mon oreille sur leur poitrine. Je connais les battements de leur cœur. Mais tout d'un coup, au théâtre, il faut. Enfin, c'est le contraire de mon art originaire. Voilà. Et puis, je me suis dit, ben justement, tout ce que je sais pas faire, il faut le faire.
Et donc vous l'avez fait, ça fait 40 ans que c'est
dur. Je l'ai fait. Marianne m'avait dit, d'ailleurs, à la première tentative, qui était Sihanouk, elle m'avait dit, une fois que tu auras fini, la troupe va lire et va décider si oui ou non. Bon, là, ça, j'ai su que j'étais de toute façon le sujet de la troupe et qu'à tout moment, on pouvait me dire, c'est pas ça, non, recommence, etc. Enfin, voilà. Bon. En fait, j'ai beaucoup de mal à écrire pour le théâtre. J'écris passionnément, c'est une aventure de l'imagination inouïe, c'est toujours du voyage, mais des voyages terribles. Parfois, je suis ravie, parce que par exemple, quand on a été en Patagonie, je me suis dit, voilà l'endroit où au monde je ne serais jamais allée. Et pourtant, j'étais en Patagonie avec ma mère. À ce moment-là, j'étais en train d'explorer l'Antarctique, je me glissais sur la banquise avec ma mère qui s'en allait dans le plus grand froid. Après, je me suis dit, mais c'est vrai, j'y suis en Patagonie. Bon. Voilà. Mais c'est difficile, c'est une écriture qui est totalement éclatée, explosée, puisqu'elle doit se différencier dans le corps et l'âme de tant et tant de personnages. Parce que au Théâtre du Soleil, c'est un personnage. C'est pas, je pourrais faire une pièce de théâtre avec n'importe quel de mes textes. Mais non, c'est pas ça, c'est le contraire de ce que je fais. Et en même temps, c'est absolument exaltant parce que c'est un mariage avec le public. Alors que quand j'écris un texte de fiction, il n'y a pas de public. Le public, il est exactement comme pour Stendhal, à qui j'ai une reconnaissance infinie, parce que je ris chaque fois que je lis ses textes et qu'il dit de cette manière si joyeuse, si confiante et si humble, tiens, je viens d'entendre un bébé là. Ah, ça sera mon lecteur. Voilà. En 1924, disait-il, on va me lire. Alors, moi, quand j'écris, c'est exactement ça. Donc je suis pas très angoissée parce que je me dis, mon lecteur, il va arriver exactement comme pour Stendhal dans 60 ans. C'est très bien.
Merci beaucoup, Alexis Xou.
Merci.
C'était la masterclass d'Hélène Cixous avec Caroline Brouet. Coordination, Arnaud Laporte. Attaché de production, Chouchan Djergaillan.